Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
Milliards de voisins avec Diarra Ndiaye.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche aux normes de beauté, à l'histoire, à la discrimination, les cheveux dits texturés, c'est-à-dire bouclés, frisés, crépus, ondulés, tout ce qui n'est pas lisse. Il raconte bien plus qu'une simple question de style. Il porte des héritages, de lutte et d'émancipation. Des influenceuses, des entrepreneurs et des militants prennent la parole pour valoriser leur beauté et dénoncer les discriminations capillaires qui existent encore au travail, à l'école ou dans les médias. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi des lois sont votées pour protéger le droit de porter ses cheveux au naturel, comment les marques et les coiffeurs s'adaptent ou pas à cette révolution capillaire, et surtout pourquoi le simple fait d'assumer ses boucles ou ses locks peut être un acte profondément politique et identitaire. Alors comment aider à changer les mentalités, comment se réapproprier une beauté longtemps invisibilisée? Les réponses dans quelques instants, et puis nous écouterons aussi le portrait de Laetitia Ki, artiste ivoirienne et influenceuse connue pour les sculptures extravagantes qu'elle réalise avec sa chevelure. Et en fin d'émission, la chronique Écoutez le monde avec Monica Fantini.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Pendant longtemps, pour de nombreux pays, l'injonction était claire. Il fallait lisser, discipliner, cacher ses cheveux considérés comme trop volumineux, indomptables, non professionnels. Mais depuis quelques années, les lignes bougent. Les cheveux bouclés, frisés, crépus, ondulés sont tendance. On en parle tout de suite avec nos invités. Daba Diohane, fondatrice de Dioka Academy, centre de formation pour cheveux frisés, crépus et bouclés. Soyez la bienvenue, Daba.
Merci, merci pour l'invitation.
Autre invité à nos côtés, Fatou Ndiaye, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, autrice du blog Black Beauty Bag, le premier blog français dédié à la beauté des femmes noires et au retour au naturel. Merci d'être avec nous, Fatou.
Merci pour l'invitation.
Et on écoute tout de suite l'une de nos auditrices.
Salut, je suis Prisca. J'ai 33 ans, je vis aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. En fait, depuis 5 ans, j'ai opté pour les cheveux naturels parce que j'avais des cheveux très abîmés. Alors, j'ai voulu arrêter avec tout ce qui est des frisages. Il m'arrive parfois de faire des tresses, des rastas, de porter des perruques. Et ici à Abu Dhabi, c'est très fréquent de voir des filles avec des cheveux naturels. Ce n'est pas stigmatisé, il n'y a pas de pression par rapport à ça. Déjà, le coût de la coiffure ici est cher, donc ce n'est pas évident d'aller tout le temps faire des défrisages et tout. Tout au contraire, c'est très bien vu parfois d'avoir des cheveux naturels. Par exemple, moi, je suis éducatrice, je travaille avec des enfants. Et parfois, c'est une curiosité pour eux de voir des cheveux naturels. Ils se posent des questions, comment ça fait pour être aussi bouclé, aussi frisé. Voilà, ils veulent toucher. Ils veulent comprendre pourquoi c'est différent des leurs. Pour eux, c'est une curiosité, quoi. Même entre collègues, tes collègues d'autres nationalités, ils veulent comprendre, est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Est-ce que c'est pourquoi? Donc, parfois, c'est une fierté également de porter ses cheveux naturels.
Fatou, on vient d'entendre le sonore de Prisca, des cheveux naturels qu'elle assume. Que sont vos cheveux pour vous?
Mes cheveux, ils font partie de mon corps.
Et vous les aimez?
Oui, je les adore.
Et vous nous le dites très bien depuis 2007.
Ouais.
On va en revenir dans quelques instants. Et pour vous, Daba, quel est votre rapport avec vos cheveux? Et que dire de la réaction de Prisca?
Alors, je comprends la réaction de Prisca parce que c'est des réactions auxquelles on doit souvent faire face quand on a les cheveux crépus. Moi, j'y réponds en général avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup mes cheveux aussi. Ça a été un apprentissage. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, un peu comme Fatou, ils font partie de moi, de mon identité. Et je ne me pose plus la question de savoir quelle frisure ils ont, comment ils sont. Ce sont juste mes cheveux et c'est tout.
Un apprentissage, comment le décrire, laborieux ou qui vous a mené en plus à créer Dioka Academy?
Oui, exactement. Alors, donc moi, quand j'étais plus jeune, je me défrisais les cheveux. Ensuite, je portais des tresses, des tissages. Donc, pendant très longtemps, je n'ai pas connu en fait mes cheveux dans leur état naturel et en fait je les cachais tout simplement, donc j'avais un rapport avec mes cheveux qui était beaucoup plus compliqué et en fait j'ai arrêté de les défriser au bout de certaines années et j'ai arrêté également les tresses et les tissages pour découvrir comment ils étaient de façon naturelle et c'est là que j'ai commencé à les aimer petit à petit.
Mais quel a été le déclic de cet arrêt des produits défrisants et des substituts capillaires et des tresses?
Alors le déclic, ça a été un échange universitaire que j'ai fait au Canada, donc j'étais étudiante étudiante à l'époque. Et j'étais partie donc pour cet échange avec un tissage. Et le prix du coiffeur au Canada, c'est beaucoup plus élevé qu'en France. Donc autant vous dire qu'avec mon budget étudiant, je n'avais absolument pas les moyens d'aller me refaire faire un tissage. Et je me suis... Et donc du coup, j'ai gardé mon tissage sur la tête pendant 4 mois.
Waouh.
Et en rentrant en France, je me suis posé la question... Pourquoi j'avais fait ça pendant autant de temps? Et c'est là, en fait, que le cheminement, que la réflexion, en tout cas, a commencé. Et ça a été vraiment le déclic pour moi et du coup, le début de l'apprentissage, de l'acceptation de mes cheveux naturels.
Mmh. Fatou, est-ce que vous aussi, il y a eu une phase où vous aviez tendance peut-être à utiliser vos cheveux autrement, à les masquer, à les défriser, à porter des substituts capillaires, des perruques?
Alors non, j'ai pas masqué mes cheveux... Parce que ben déjà, on avait une maman, elle, qui a jamais porté de perruque, ni jamais fait de défrisage. Elle avait de super beaux cheveux longs. Mais je voulais ressembler à mes copines, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai fait du défrisage. J'ai fait beaucoup de défrisage. Mm-hmm. Donc, je laissais mes cheveux... je faisais beaucoup de coiffure avec mes cheveux défrisés. Ou alors, je pouvais aussi les couper à la courte, comme dans les années 90, comme
c'était
des chanteuses
R&B. Ouais.
Sinon, c'était beaucoup les tresses aussi, dans les années 90, les tresses.
Ouais, c'était à la mode aussi, suivre la tendance.
Exactement,
ouais.
Suivre la tendance.
Fatou, vous êtes l'une des vraiment les premières à avoir médiatisé la question des cheveux, mm-hmm. Ici, des cheveux texturés. On en revient d'ailleurs sur ce thème dans quelques instants, mm-hmm. En France. Comment vous avez vu évoluer le regard sur ces cheveux depuis la création de ce blog? Et on était en 2007.
Oui, 2007. Bah parce qu'en 2003, je fréquentais un forum qui était célèbre à l'époque, qui s'appelait Beauté d'Afrique, où j'étais devenue modératrice de la partie beauté. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à se poser des questions, à échanger sur les cheveux, parce que ça avait déjà pris forme aux États-Unis. Mmh. Donc après, ça arrivait sur les forums en France. Et les femmes noires, africaines, et c'est important de le souligner, avaient pris le parti en France aussi d'arrêter le défrisage et de retrouver la texture de leurs cheveux. Alors moi, j'ai vu beaucoup de filles sur le forum qui avaient arrêté de se défriser, de raconter leur histoire. Mmh. Et en 2007, après avoir attendu 4 ans, je me suis... 2006, j'ai fait
2006.
Mon big shop.
Okay.
Et voilà, 3 ans après, j'ai dit, allez, je tente, on va voir ce que
et
ça
aujourd'hui,
donne.
Aujourd'hui, en 2025, est-ce que vous avez senti cette évolution, vous?
Il y a une évolution, mais il y a aussi eu un rétro-pédalage, j'ai envie de dire. Je trouve que les femmes qui ont mis en avant ce retour au naturel... qui ont souvent les cheveux 4C, comme on dit,
ouais.
Qui ont les cheveux crépus, sont invisibilisés maintenant par des textures capillaires bouclées, frisées, ondulées, alors que ce sont ces femmes noires qui ont donné envie à toutes ces filles-là, qu'elles soient maghrébines, même blanches, avec les cheveux bouclés, métisses, d'arborer la texture capillaire. J'ai envie de dire, quand une femme porte un des cheveux qui est vu... comme le plus moche au monde, c'est triste, mais qu'elle vous montre qu'elle l'aime, qu'elle le célèbre, ça donne envie aux autres de suivre.
J'aimerais qu'on s'arrête sur de la sémantique. J'ai remarqué quand même que le terme texturé, Fatou et Daba, je vous laisserai réagir, peut parfois susciter des réactions contrastées. Quelle est votre lecture sur l'évolution lexicale vraiment de ce cheveu texturé? J'aimerais beaucoup comprendre votre point de vue.
Moi, je déteste ce terme-là. Quand on parle de cheveux texturés, on met tous les cheveux qui ne sont pas lisses dans un seul pot. Comme s'il y avait les mêmes problématiques, les mêmes soins à aborder. Et souvent, même quand on parle de cheveux texturés, on va penser aux cheveux bouclés, frisés, ondulés. On ne va pas penser aux cheveux crépus, ni aux locks d'ailleurs.
Alors moi, je déteste ce terme également parce qu'en effet, on met tout dans le même panier. Et en fait, on oublie en fait, les spécificités de chacun. De chacune de ces types de boucles et de chacune de ces frisures qui ont vraiment des caractéristiques qui sont particulières. Et le deuxième problème, c'est que ça invisibilise le cheveu crépu également. Donc moi, typiquement, je travaille énormément donc avec les coiffeurs, donc je leur propose des formations justement pour cheveux texturés parce que ça englobe le bien du cheveu bouclé
au cheveu
crépu.
Donc on utilise ces termes, c'est vraiment aujourd'hui le mot qu'on utilise partout.
Alors moi, je l'utilise parce qu'en fait, les gens, ils comprennent aujourd'hui ce terme-là. Après, moi, typiquement, donc j'organise des formations pour les coiffeurs et j'ai cœur de leur expliquer que le terme texturé c'est un terme qui n'est pas assez précis. Et souvent, en effet, comme Fatou le dit, moi je travaille avec beaucoup de coiffeurs qui disent qu'ils s'occupent du cheveu texturé, alors qu'en réalité ils s'occupent du cheveu bouclé.
Oui, mais là,
ils
on
ne s'occupent pas
avec...
des cheveux crépus.
Oui, mais on se retrouve avec plein de mots. Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est ondulé? Moi-même, je distingue pas. Est-ce que c'est bouclé? Est-ce que c'est frisé?
Pourquoi ne pas dire, par exemple, moi il y a un terme sinon que j'aime bien, un acronyme qui est BFC, bouclé, frisé, crépus. Tout simplement, ça pourrait être une alternative aussi. Mm-hmm. C'est important de se dire quand même que le terme texturé, aujourd'hui, il existe parce que les choses ont évolué dans la société. Mm-hmm. Donc, c'est aussi le symbole de cette avancée-là. Il ne faut pas non plus le nier, mais aujourd'hui, allons plus loin, soyons plus exigeants, soyons aussi plus précis sur les termes qu'on utilise pour continuer que les choses avancent dans le bon sens et que tous les cheveux soient célébrés de la même façon.
À vous de nous vulgariser toutes ces beautés. Vous allez le faire avec brio. On va prendre la direction du Kenya pour écouter le témoignage d'une de nos auditrices. Elle s'appelle Cynthia.
Salut RFI. Moi, je suis africaine. Je suis nairobienne et j'ai des cheveux bouclés, très, très bouclés. Et pour la plupart des femmes ici, on met que les braids. C'est parce que c'est pas légère et facile à rester longtemps juste avec nos cheveux naturels. Ça demande du temps et de produits pour les rendre plus lisses à styler. Quand même, j'aimerais les porter naturellement. Je trouve qu'elles compliment ma tête et mon corps très bien. Mais avec cette économie, on n'a pas cette luxe. Sinon, il y en a des filles qui le font et c'est une inspiration pour moi.
Fatou, que pensez-vous du témoignage de Cynthia qui est au Kenya? Bon, c'est pas facile d'entretien, il y a une question de temps également.
C'est quelque chose qui m'énerve. On fait toujours ce parallèle avec cheveux crépus ou naturels, égale cheveux difficiles à entretenir. Et moi, je le dis depuis le début de mon blog, dans plusieurs articles, il n'y a pas de cheveux difficiles, il y a juste des cheveux dont on nous a pas appris à les aimer ou on n'a pas appris à en prendre soin. Et souvent, même les personnes n'ont pas eu l'habitude d'aimer, de connaître leurs cheveux, de s'admirer devant le miroir, de s'amuser avec. Du coup, pour eux, c'est plus une corvée que de prendre soin de ses cheveux, que ça soit un moment de bien-être. Je pense qu'à partir du moment où on apprend à aimer quelque chose, c'est comme la cuisine, plein de choses, ça devient facile en fait.
Mais ce que décrit Cynthia, beaucoup s'y reconnaissent, c'est-à-dire cette question de temps, cette question de financière également pour les produits, ça revient beaucoup en commentaire.
Ça revient beaucoup, mais je vais faire un parallèle. J'entends jamais dire les gens, c'est difficile, ça me prend du temps à me maquiller, alors qu'elles prennent 20-30 minutes à faire tout un make-up,
un rituel,
tu vois, tout un rituel. Même on va parler des tissages et des perruques, poser la perruque, les lisser tous les matins, faire des boucles, ça prend plus de temps que de se lever avec son cheveu. Et je pense que beaucoup de personnes disent que c'est dur parce qu'elles n'ont pas eu l'habitude de se regarder devant le miroir avec ce cheveu qu'on nous a appris à diaboliser et à détester. Quand on se retrouve avec son cheveu, c'est comme si on était nu et on ne sait plus comment faire avec. C'est pas plus cher, moi, depuis que je suis passée aux cheveux crépus, je dépense moins que quand j'étais défrisée, parce que quand on est défrisé, il faut faire les défrisages, il faut faire les lissages, il faut aller en salon de coiffure, il faut faire des soins. Et surtout, même quand on vit en Afrique, c'est encore plus facile. Moi, quand je vais en vacances en Afrique, déjà, le cheveu, il est dans le climat qui est fait pour lui. Il est plus doux, il est plus cotonneux, il est plus vaporeux.
Mais là, vous décrivez des cheveux de rêve. Hein, la moitié, moi, les personnes que je connais autour de moi, en tout cas, n'ont pas ces cheveux. Hein.
Après, qu'est-ce qu'on appelle cheveux de rêve? Moi, pour moi, un cheveu de rêve, c'est un cheveu qui est en bonne santé. Un cheveu de rêve, c'est pas un cheveu qui est long, parce que souvent aussi on dit qu'un cheveu qui est beau, c'est un cheveu qui est long à la longueur.
C'est vrai.
Voilà. Donc moi, pour moi, en fait, il y a pas de cheveux moches, il y a pas de cheveux difficiles, il y a juste des cheveux dont on ne sait pas s'occuper.
Mais du coup, il y a une forte injonction quand même à aimer ses cheveux crépus. Mais est-ce qu'on risque pas aussi de tomber, pour moi, dans l'extrême inverse, en culpabilisant celles et ceux qui choisissent d'adopter d'autres styles capillaires, avec les substituts capillaires, avec des défrisages?
Non, moi je pense pas en fait. À un moment donné, moi je me souviens quand le mouvement Nappy est né, je l'ai vu naître, c'était juste des femmes qui disaient « j'ai envie de réapprendre à aimer mes cheveux ». Elles partageaient des photos, elles montraient comment elles prenaient soin de leurs cheveux. Et je pense que c'est ce qui a donné envie aux gens qui nous suivent de se dire, ben, elles nous ressemblent, elles sont noires comme nous, elles arrivent à prendre soin de leurs cheveux, j'ai les mêmes cheveux qu'elles, pourquoi je ne testerai pas, quoi. Et puis même parler d'injonction, je trouve ça...
C'est fort.
Ouais, c'est fort, c'est réducteur, parce que pourquoi quand il s'agit de célébrer nos beautés, j'ai l'impression que les gens, c'est comme si on les obligeait ou faire du forcing, alors que pendant des siècles et des années, on nous a forcés à adopter un stéréotype de beauté qui n'était pas le nôtre, et ça a dérangé personne, en fait, j'ai envie de dire. Je pense que chacune est libre, mais j'ai l'impression que certaines, quand elles voient des femmes... moi, je sais que, par exemple, mes cheveux crépus, je les porte, allez, 350 jours dans l'année, et puis le reste du temps, je vais peut-être faire des tresses ou avec mes cheveux. Ben, j'ai l'impression que... j'ai déjà reçu des messages comme ça. Oui, c'est un peu agressif, on te voit avec tes cheveux, c'est comme si tu nous forçais à avoir des cheveux naturels. Mmh. Et je disais aux gens, mais quand vous voyez une femme blanche avec ses cheveux, est-ce que vous lui dites la même chose ? Pourquoi moi, mes cheveux qui poussent sur ma tête de cette manière-là, vous le prenez pour une agression ou comme si je voulais vous montrer quelque chose?
Mais parce qu'il y a la question identitaire aussi derrière. C'est quand on voit l'histoire et comment les cheveux ont été utilisés pour des revendications, c'est peut-être ce côté-là qui essaye d'être mis en avant, alors que c'est un choix finalement. En fait, chacune devrait avoir le choix. Enfin, moi, j'ai pas du tout d'a priori, ça c'est pas du tout personnel. Hein. Je regardais juste les commentaires, par exemple, qui sont sur les blogs, les réseaux sociaux. Les gens aiment bien attaquer ce volet-là, donc essayer de les comprendre. Même,
ben, moi, je pense que quand on est bien dans sa tête et dans sa peau, on prend
pas. Il y a pas de débat.
Ouais. On fait pas des projections de ce que l'autre personne fait ou a. Donc et moi, pour moi, quand on m'agresse parce que je porte mes cheveux, c'est que c'est la personne qui a un problème avec sa propre perception de sa beauté.
Et pas
moi.
Le temps de répondre, justement?
Avant, je prenais beaucoup le temps de répondre et c'est usant à la fin. Donc, du coup, je vais faire des articles, je vais informer, mais voilà, après, celui qui veut lire, il lit. Mais c'est un peu faire de la thérapie. Hein.
Je suis assez d'accord. Je pense que les gens qui se sentent agressés, c'est parce que ça leur renvoie peut-être à un inconfort qu'ils n'osent pas s'avouer, en fait, à eux-mêmes, au final.
Et, même si les normes de beauté évoluent et que...
Les normes de beauté évoluent, c'est sûr. Mais en fait, moi, je me dis, en effet, moi, je pars du principe que chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses cheveux, point barre. Je pense que l'important, c'est juste de faire des choix en toute conscience. Si on souhaite porter des perruques, très bien. Mais pourquoi on veut porter des perruques? Est-ce qu'on veut porter des perruques parce que, dans le fond, on n'aime pas ses cheveux? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, parce qu'on est maman, on a des enfants, on n'a pas le temps le matin, donc on met une perruque, donc ça nous paraît plus rapide?
Ou qu'on se sent plus belle, tout simplement.
D'accord. Ah, mais
là, ça peut être ça aussi.
Mais c'est une question aussi. Pourquoi on se sent plus belle si on a une perruque qui est souvent lisse, d'ailleurs, parce qu'en général,
mais pourquoi on se sent plus belle avec du maquillage?
Moi, je ne ferais pas le parallèle avec le maquillage parce que toutes les femmes mettent du maquillage. C'est vrai que ça apporte une confiance en soi. C'est thérapeutique, c'est un bien-être. Mais moi, pour moi, quand on met tout le temps qu'une perruque lisse, il y a quand même quelque chose derrière. Souvent, les gens vont dire, oui, les femmes blanches aussi, elles mettent des rajouts et tout ça. Elles mettent des rajouts qui ressemblent à la texture de leurs cheveux.
Oui.
C'est totalement différent d'une femme noire qui va mettre des rajouts qui rappellent le type de cheveux des beautés occidentales. Donc, on est toujours dans le même questionnement, le lisse égal beau.
Exactement.
Le crépus, le frisé, égal pas sérieux ou c'est pas joli.
Voilà. Et il y a même parfois des blanches qui mettent des perruques, mais on voit quasiment jamais de blanches mettre des perruques afro.
Mettre en point des perruques afro.
Je sais pas vous, mais moi j'en ai jamais vu.
Franchement, là,
parce que c'est pas la texture d'origine.
Ouais. Moi, je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, c'est comme le défrisage. Moi, je sais que j'ai défrisé parce que quand tu voyais à la télé les Américaines, les cheveux qui volent, tu vois, c'est toujours ce stéréotype de beauté. Donc, disons-nous la vérité, c'était pour ressembler et rentrer dans un stéréotype de beauté qui était conventionnel.
Dans la norme de beauté.
Mais ce que vous dites, j'ai retrouvé la note, l'ethnologue Christian Brumberger qui explique que dans l'imaginaire collectif, le cheveu lisse est associé à l'ordre et à la norme, tandis que le cheveu bouclé est crépus, incarne la révolte carrément et le chaos.
Exactement.
On va continuer de parler de tout ça juste avant. On part en Côte d'Ivoire. On va partir en Côte d'Ivoire, écouter un jeune talent qui fait parler de lui sur la scène rap. Il s'appelle Leski, un style percutant, des textes aiguisés et un flow qui accroche. On écoute son titre, Les Pommes.
Mon âge est un canari, n'y a comme un Qatari, donc j'ai beaucoup d'amis descendant d'Amani. Je causais Valérie, elle dit de la droite, ouais, c'est pas qui est Panari. La petite est possédée, la vie est colorée. J'appelle mon Bolloré, Kali dans Gobelé, mon tonto honoré. S'il a parlé seulement, il va honorer. Faut pas t'amener, faut pas te promener, faut bien me regarder. Beaucoup de gens, on dirait, il fait canari. L'enfer sur terre, on te dit, c'est pas paradis. J'ai pas tes fumées, gosse, je suis membre Amani. Mougou, beaucoup de gosses, toujours, c'est pas la vie. Et la croise à la vie, et la mettre dans mon lit, pète tout dans galerie. Moi-même, ça me fait rire. Je suis dans Daniel et Valérie, donne Mougou, Valérie, arrête tes anéries. Pourquoi ça te fait rire? Toi-même, tu parles qui, faut pas t'affaire, on met ton cul dans la piscine. Je suis pas dans les conneries, bitch, je suis dans les pommes, pommes. Je n'ai pas d'ennemi, bitch, je suis dans les pommes, pommes. Il
très prêt pour eux, mais ils m'ont fait du sale. Je ne peux plus leur étendre la main encore, la vie c'est comme ça. On maîtrise le RAP, Péri, c'est un jeu. Pour bien manger, être rassasié, faut toujours barrer comme un bœuf, ouais. Étoile montante du rap, voici, tu me vois faire un vœu. Faut pas te jouer les bœufs, sinon t'auras même pas un peu. Je son prêt, touche 20 vœux, pour la tabaski, il me faut un bœuf. Champion, faut pas te jouer les bœufs, sinon t'auras même pas un peu. Je suis pas dans les conneries, je n'ai pas d'ennemis, je le donne à Némi, moula dans Nivakin, et pote c'est ballerine, mougouta, gokin et veut, ouais c'est pathétique. Zadri pas qui est photocopie, taper les pétés, chip pour chanter conneries, ils font sorcellerie, donc je n'ai pas d'amis, il fait mon pèlerin, hein, c'est mon babadi. Ah! Je suis dans Daniel et Valérie, donne mougou Valérie, arrête tes anéries, pourquoi ça t'est ferri, toi même tu parles qui, faut pas qu'à faire, on met ton cul dans la piscine. Je suis pas dans les conneries, bitch, je suis dans les pommes, pommes. Je n'ai pas d'ennemis, bitch, je suis dans les pommes.
Les skis, les pommes, vous écoutez 8 milliards de voisins ce vendredi. Bouclés, frisés, crépus, longtemps invisibilisés, ces cheveux s'imposent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans l'espace public. Mais au-delà d'une tendance, c'est un combat. Chez 8 milliards de voisins, on en parle avec Daba Durhane, qui est la fondatrice de Dioka Academy, et Fatundia, créatrice de contenu depuis bien longtemps. Et puis on va rester tout de suite à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la rencontre de Laetitia Ki, 28 ans. C'est une artiste ivoirienne, connue pour les sculptures extravagantes qu'elle réalise avec sa chevelure, du fil de fer et parfois des extensions capillaires. Elle se coiffe et se met en scène sur les réseaux sociaux pour dénoncer les tabous et les violences envers les femmes en Côte d'Ivoire. Afro-féministe, activiste et actrice, Laetitia Ki est engagée jusqu'au bout des racines. Notre reporter Raphaël Constant l'avait rencontrée à Abidjan. Revoici son portrait.
Donc là, j'ouvre ma page Instagram et je vous montre une des photos que je préfère, que j'ai fait en 2020, il me semble. J'ai fait avec mes cheveux le buste d'une femme.
Au-dessus de votre tête.
Au-dessus de ma tête, voilà. Un buste nu où on voit clairement le pubis, les seins. J'ai utilisé des extensions rouges pour simuler les règles.
Qui coulerait sur ma tête.
Pour moi, c'est une des plus importantes sculptures que j'ai faites parce que c'est quelque chose qui m'a touchée beaucoup. Je pense qu'en tant que femme, on grandit en apprenant à détester son corps dans la société patriarcale. On nous dit que nos seins sont obscènes, on nous dit que nos règles sont sales, on nous dit que notre biologie est contraignante. Et on grandit en intériorisant toutes ces idées-là. Mais une fois qu'on s'en sépare et qu'on apprend à se réapproprier son corps, sa biologie, on retrouve une sorte de pouvoir qui est extrêmement fort en fait et qui nous donne beaucoup d'énergie pour accomplir plein de choses au quotidien. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette sculpture-là.
Alors justement, comment tout a commencé, Laetitia ?
Tout a commencé il y a environ 5-6 ans. Je suis tombée sur un album photo de femmes africaines dans l'époque précoloniale, des anciennes photos en noir et blanc avec des femmes avec des coiffures mais impressionnantes. Et moi, il faut dire aussi que depuis que je suis toute petite, je suis très habile des mains, je fais pas mal de choses, je tresse tout le monde autour de moi, ma maman, mes sœurs, tout ça. Donc ça m'a tout de suite donné envie d'expérimenter en fait. Et ça faisait pas hyper longtemps que moi-même j'étais revenue à mes cheveux naturels. Parce que depuis que j'étais toute petite, le défrisage, c'était quelque chose de normal. Quand j'ai eu 16-17 ans, je suis revenue au naturel. Quelques années après, je suis tombée sur cet album dont je parle. Donc j'étais dans une phase où moi-même, j'essayais vraiment de me réconcilier avec mes origines, avec l'esthétique africaine. Donc je portais les tresses que je porte en ce moment.
Là, vous avez des tresses qui sont très longues, qui descendent jusqu'en bas du dos, mais assez épaisses.
Exactement. Et dès que j'ai fermé l'album, je me suis dit, je vais tester quelque chose. Je postais parce que je trouvais l'image belle. Au fur et à mesure que je faisais ça, j'ai commencé à recevoir des messages de femmes me disant que ce que je poste, ça les inspire énormément et que ça les aide dans leur estime personnelle, ça les aide à s'accepter en tant que femme noire. Parce que, je veux dire, le cheveu crépus, c'est le moins beau, c'est le moins professionnel, c'est celui qu'il faut lisser, c'est celui qui est trop rebelle, c'est celui qu'il faut cacher, c'est celui... Voilà. Donc, l'utiliser pour en faire de l'art, c'est quelque part le célébrer, c'est quelque part le magnifier. Et quand une autre femme voit ça, elle se dit, en fait, si elle, elle ne le cache pas et elle l'utilise pour créer quelque chose de beau, c'est que peut-être il n'y a pas lieu de le cacher.
Alors justement, Laetitia, est-ce que les cheveux peuvent parler ? Vous avez 3 heures.
Les cheveux peuvent vouloir tout dire, mais moi, dans mon cas, en fait, l'enjeu de tout ça, c'est vraiment d'inspirer les femmes autour de moi, parce que je sais ce que c'est d'être une femme et de grandir dans un environnement hostile, patriarcal. Même dans le traitement des filles et des garçons à l'école, quand j'ai atteint la 6e, il a fallu que je me rase la tête. Parce qu'on estime qu'une jeune fille avec des cheveux ne va pas assez se concentrer sur ses études, elle va se concentrer sur la beauté, en plus elle va séduire. Mais c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendue compte que j'étais attachée à mes cheveux, parce que ça a été hyper dur pour moi de m'en séparer. Et je me rappelle encore.
Oui, il y a une certaine forme de violence dans le fait d'imposer aux petites filles de se raser la tête.
Mais complètement, il y a vraiment une forme de violence dedans. Et ça me révoltait, mais je n'avais pas forcément le pouvoir de dire quoi que ce soit. Et quand tu grandis, ça ne s'améliore pas. On te dit que, écoute, toute l'attention que tu as des hommes, c'est de ta faute, c'est à cause de ton corps, c'est toi qui tentes. Si je porte des vêtements trop courts, je sais que je suis capable de me faire agresser, alors que c'est pas normal. Je suis censée pouvoir porter ce que je veux. Je partais acheter quelque chose au marché, et puis t'as un gars qui m'a vu et qui a crié, espèce de pute, va te rhabiller. Puisque tu veux pas t'habiller, je vais te déshabiller moi-même. Et il a vraiment commencé à essayer de me tirer la jupe. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait des gens autour qui m'ont défendu. Dans d'autres circonstances, ça aurait pu être pire. Parce que c'est une pratique qui existe à Abidjan, des gars qui des habits des filles qu'ils trouvent habillées pas assez décemment.
Donc est-ce qu'on peut dire que vous faites de vos cheveux afro une arme de dénonciation ? Est-ce que pour vous c'est aussi un symbole d'émancipation ?
Bien sûr, je veux dire, le corps de la femme il est politique et le corps de la femme noire encore plus. Pour moi c'était juste une évidence. Il faut savoir que aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été un peu rebelle sur les bords. Tous les tabous qui sont autour du corps féminin en général, je ne les supporte pas.
Et à la maison, aujourd'hui, dans votre famille, ce militantisme, comment il est perçu ? Est-ce que c'est compliqué ?
Alors, pas du tout. Je n'ai que des féministes autour de moi à la maison. Ma maman, elle allait au travail tous les jours. Je la voyais tous les jours aller, rentrer tard le soir et puis subvenir à nos besoins. Elle gérait absolument tout dans la maison. Donc moi, dehors, quand je partais, une toute petite fille, et qu'on me dit la place de la femme, c'est la cuisine, moi, j'avais tout juste envie de dire non, ma maman, elle n'est pas dans la cuisine du tout. Elle fait bien plus que ça. Après, mon papa, il ne comprend pas forcément tous mes points de vue. On a arrêté de se parler pendant 2 ans à cause de ça, justement. Ouais. Je lui ai pas laissé le choix en fait. Mais c'est bien parce que maintenant on se reparle et il est fier de moi parce qu'il voit que tout ce que j'ai fait, ça paye. Il est désolé et sans prétention, je me considère comme étant heureuse en fait. Je suis une artiste, je suis une militante, je suis une actrice, je suis vraiment beaucoup de choses à la fois et je pense que c'est tout ce mélange là en fait qui fait Laetitia.
Laetitia, qui j'imagine là-bas, Diokhane, vous qui êtes la fondatrice de la Dioka Academy, une académie qui est un espace où l'on apprend ou réapprend d'ailleurs, à connaître, aimer ou entretenir les cheveux frisés, crépus et bouclés. Est-ce que vous avez une réaction suite à ce portrait que l'on vient d'écouter ?
Oui, quand elle dit le corps de la femme est politique, ça me parle beaucoup parce que de la même façon que le cheveu aussi est politique, on en a parlé rapidement, on a quand même dû voter des lois en France pour la discrimination capillaire, donc c'est quand même fou d'en arriver là.
Ouais, l'Assemblée nationale a voté une loi contre la discrimination capillaire en mars 2024, elle doit passer au Sénat je pense, mais concrètement, est-ce que ça va changer la vie des personnes ou est-ce que c'est symbolique d'ailleurs ?
Je pense que pour moi c'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose, parce que je pense que les personnes qui ont cette image négative des cheveux donc crépus garderont une image négative même si une loi est votée et ils trouveront toujours des moyens et des stratagèmes pour soit ne pas recruter la personne ou faire en sorte quand même qu'elle doive cacher ses cheveux ou les dissimuler ou les modifier, mais en tout cas ça donnera aux personnes concernées des recours au moins pour pour pouvoir se défendre. Et c'est un symbole fort aussi dans le sens où ça a permis aussi de mettre en lumière aussi ce sujet qui est souvent très peu connu des personnes qui ne sont pas concernées, ce qui est assez logique. Donc je pense que c'est important d'en parler et c'est comme ça aussi qu'on les choses évoluent de façon progressive.
Mmh. Et vous, dans vos salons, vous formez qui en fait concrètement?
Alors nous, en fait, ce qu'on propose, ce sont des formations pour les professionnels de la coiffure, donc pour les coiffeurs et également parfois pour les marques capillaires. Et l'objectif pour ces coiffeurs qui sont déjà diplômés et qui ont déjà parfois leur établissement ou leur salon de coiffure, c'est de les aider à apprendre à entretenir au naturel le cheveu, donc crépus, frisé, bouclé. Donc on apprend des
techniques. Parce qu'en école, ici, en CAP, il n'y a pas ça.
Non. Le CAP de coiffure en France n'intègre pas le cheveu crépus, tout simplement. Il y a encore des manuels de coiffure où c'est indiqué que le cheveu négroïde est une anomalie génétique parfois.
Et ça
donc,
paraît fou,
on
quand
en
même.
Est là. Et oui, on en est encore là en 2025. Et ce qui fait que donc sur les 100 000 centres de coiffure en France, aucun n'a eu donc dans sa formation classique un apprentissage en fait du cheveu crépus.
Mais est-ce que ça intéresse cette formation?
Ah oui, ça intéresse. Oui, il y a un engouement de plus en plus. Nous, on propose des formations à Paris et aussi dans des villes de province. Là, on propose par exemple, on va former des coiffeurs dans les Vosges au mois de mai sur le cheveu crépus.
C'est génial.
Et c'est des coiffeurs qui sont blancs, des coiffeurs qui sont noirs, des coiffeurs maghrébins. Donc,
mais en vérité, même en étant ici à Paris et allant dans des salons de noirs ou voir des coiffeurs noirs, ils ne s'occupent pas forcément bien de nos cheveux.
Complètement.
C'est ça qui est dramatique.
Ah bah, complètement, parce qu'on a tout cet historique de défrisage,
on a toute une galère.
Et donc, ce qui fait que nous-mêmes, souvent, on ne sait pas comment s'occuper de nos propres cheveux et les coiffeurs afro, au final, ça reste la même chose aussi pour eux. Ils sont dans ce même cas de figure.
Fatou, vous vous coiffez où, vous?
Alors moi, je me coiffe toute seule. Enfin, mes soins, mes cheveux et tout ça. Sinon, quand je veux vraiment faire des soins, vraiment me faire chouchouter, je vais chez Gilles Boldon.
Et c'est un coiffeur.
C'est un coiffeur afro-antillais qui coiffe cheveux crépus. Il coiffe toutes sortes de cheveux, même les femmes blanches, maghrébines.
Il coiffe tout le monde.
Il est super.
Et je voudrais juste rebondir rapidement sur Gilles Boldron, parce que pour la petite histoire, c'est grâce à Fatou, en fait, que j'avais découvert donc Gilles Boldron sur son blog.
Ouais.
Et c'est le coiffeur, moi, qui m'a réconciliée avec mes cheveux.
Ouais, il est excellent. Wow.
Et c'est là où je me suis dit, aller chez le coiffeur, ça peut être une expérience agréable.
C'est important.
Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer Dioka, justement, en référençant tous les coiffeurs qui savent s'occuper de nos cheveux au naturel. Donc du coup, voilà, je voulais quand même...
Donc il a fait la formation, est-ce qu'il connaît? Mais c'est excellent,
lui,
c'est ça,
formé,
c'est super.
Tout seul via son père, qui était également coiffeur. Donc c'est via Fatou que j'ai rencontré Gilles, que j'ai ensuite lancé Dioka.
Vous avez vu les synergies que vous créez, Fatou.
Oui.
Fatou, on est fiers de vous, hein. Merci
Fatou, vraiment.
Étant Diaï en plus, j'imagine que c'est logique. Fatou, justement, quand vous avez lancé votre blog, le discours sur le retour au naturel, c'était véritablement un acte militant. Ça n'existait pas. Vous étiez pionnière. Aujourd'hui, il y a des grandes marques de cosmétiques, longtemps réfractaires aux cheveux crépus, qui se sont emparées de ce sujet, qui proposent des gammes dédiées. Vous avez fait une pub pour L'Oréal, vous. Selon vous, est-ce que c'est une récupération du mouvement ou est-ce que c'est une véritable victoire qui est sincère? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que les marques jouent-elles vraiment un rôle sincère dans cette valorisation du cheveu naturel ou est-ce qu'elles cherchent à capitaliser sur un marché?
Moi, je pars du principe que tout dans la vie, c'est du business, c'est du marketing. Après, les marques ont suivi des tendances qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai été ambassadrice L'Oréal pendant des années et puis je continue un peu à travailler avec eux en externe. J'ai dialogué longuement avec eux. Il y a une réalité, quand le mouvement nappy, comme il s'appelait à l'époque, a émergé, il y a eu une baisse des ventes de défrisage de près de 30%. Les salons de coiffure même nous en ont beaucoup voulu. On était les bêtes noires de beaucoup de coiffeurs afro parce que les filles ne venaient plus se défriser ou faire des tissages. Elles ont appris à aimer leurs cheveux. Elles ont compris que le cheveu crépus n'est pas quelque chose de difficile et qu'on pouvait faire plein de coupes avec. Je me rappelle à l'époque avec d'autres blogueuses, on faisait des challenges coiffure pour montrer que on peut avoir un cheveu crépus, faire un chignon, faire des twist out, faire toutes les coupes possibles et inimaginaires. Donc voilà, et il y a eu une demande, donc ils ont dû s'adapter aux demandes. Et puis, il y avait aussi une des pionnières qui est Kelly Massol, que je salue. Les Secrets de Loli, que j'ai connue aussi sur les forums. Elle avait un forum qui s'appelait Boucle et Coton à l'époque, qui a créé sa marque en 2009. Donc, ouais. Quand on voit le succès de cette femme-là, bah, les autres marques aussi, bah, il y a toujours de la veille concurrentielle. Se disent, bah, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Les femmes noires, il y a un retour au naturel. Donc, voilà quoi.
Daba, quel regard vous portez sur le rôle des coiffeurs afro? Est-ce que vous allez les démarcher? Comment se passe cette collaboration pour justement Dioka Academy?
Alors, oui, enfin, par rapport à la question, est-ce que les coiffeurs ont un rôle dans la formation, etc. Bien sûr que oui, ils en ont un qui est hyper important. Ils ont aussi un rôle aussi de transmission et d'aider les femmes justement à s'accepter au naturel, etc. La collaboration, en fait, elle se fait de façon assez fluide, c'est-à-dire que de la même manière que les marques, comme disait Fatou, s'adaptent aussi aux tendances, les coiffeurs afro, ils s'adaptent aussi aux nouvelles envies, aux nouvelles attentes des femmes. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes donc qui continuent de faire des tresses ou des tissages, mais elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir porter leurs cheveux naturels. Elles étaient 84% en 2021 à porter leurs cheveux naturels, elles étaient 39% en 2012. Wow. Donc, les coiffeurs sont obligés également de mettre à jour leurs compétences et leur savoir-faire. Mmh. Et donc, du coup, il y a une collaboration qui se fait de façon assez fluide et naturelle.
Ouais. Et dans les formations que vous dispensez, est-ce que vous observez des barrières inconscientes?
Oui.
Oui, chez les coiffeurs, dans leur manière de percevoir les cheveux crépus,
bien sûr, etc. Et bien en fait, ils ont ces mêmes barrières en fait que les femmes dont on parlait tout avant, qui pensent que c'est long, que c'est compliqué. Souvent, les coiffeurs.
Moi, la première. Hein, je voilà. Dis.
Mais c'est en fait c'est tout ça justement qu'on déconstruit lors des formations. Lors des formations, en fait, on leur apprend des techniques de coupe, de soins, de coiffage. Mais pour moi, le plus important, c'est que ils apprennent la psychologie des clientes, qu'ils dédramatisent aussi le cheveu. Le cheveu crépu est un cheveu comme un autre. C'est la même molécule, c'est la même chose. Il est composé de la même façon qu'un cheveu lisse, qu'un cheveu asiatique. C'est la même chose. Donc déjà, on arrive à baisser ces barrières mentales, et parce que la plupart d'entre eux n'ont jamais touché un cheveu crépu de leur vie. Et en fait, quand ils touchent, ils disent « mais c'est incroyable, c'est un cheveu qui est complètement versatile, qui change de longueur en fonction de l'humidité, de l'eau, etc. » Et en fait, ils découvrent tout un monde. Et en fait, oui, il y a des barrières qui sont vraiment réduites, et au final, c'est un monde à eux qui s'ouvre, et ils sont hyper contents au final de découvrir ça.
Ouais. D'abord, en quelques mots, puisqu'on va bientôt conclure cette émission. Quel conseil vous donnez à une personne qui souhaite retrouver la santé de ses cheveux après des années de défrisage ou de lissage ou peu importe? Comment on peut aider surtout les jeunes générations à aimer, à assumer dès l'enfance, sans passer par des années un peu plus complexes, on va dire?
Je pense qu'il faut comprendre que c'est un cheveu comme un autre, qu'il faut commencer par une routine simple. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 produits dans sa salle de bain. Il faut un shampoing, un après-shampoing, une crème hydratante, et ça suffit. En fait, je pense qu'il faut déjà commencer par là, se dire que c'est simple, on teste, on essaye et on ajuste, et c'est pas grave. Et que ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Prenons le temps, ça en vaut la peine. Quand on passe tous les matins 10 minutes dans sa salle de bain à se lisser les cheveux, ça prend au final plus de temps que de faire une routine capillaire de 30 minutes toutes les deux semaines. Donc au final, ce sera plutôt même un gain de temps pour elle. Et voilà, et je pense que ça fait partie, c'est le cheveu, ça fait partie aussi de l'expression de l'estime de soi. Donc commençons par là aussi pour s'aimer aussi nous-mêmes en tant que femme, et ce sera déjà ça de gagner pour la suite.
Et on continue de suivre Fatou, hein, qui inspire. Hein.
Exactement.
Fatou, et vous, si vous aviez à adresser un message peut-être à ces jeunes filles ou ces jeunes garçons d'ailleurs, qui doutent encore de la beauté de ces cheveux naturels, que peut-on leur dire?
Alors les garçons, c'est marrant parce que je vois que maintenant les garçons portent des locks, portent leur afro, portent leurs cheveux. Donc, et pour les filles, moi je pense que pour les filles, ben, ça commence dès l'enfance. Faut que ça soit la coiffure, faut pas que ça. Quand on demande à plein de filles leur expérience coiffure, c'est toujours quelque chose de dramatique, de traumatisant. Donc je pense que ça aussi, ça a impacté et ça a joué sur le fait que le cheveu, il est dur, il fait mal, c'est quelque chose
changer
de...
Changer le narratif déjà.
Changer le narratif, il faut que ça devienne un moment de partage entre la mère et sa fille, un moment cocooning. Et on le voit maintenant, il y a plein de mamans qui prennent le temps, qu'il y a même des cours pour apprendre soin des cheveux de leur petite fille. On voit des mamans qui font lire des livres à leur petite fille pendant qu'elles sont en train de leur démêler les cheveux et tout ça. Il faut que ça devienne un moment vraiment d'amour et où on apprend à connaître son cheveu. Faut pas que ça devienne un moment de peur ou un moment de crainte ou un moment de on va s'occuper de mes cheveux, je vais avoir mal. Après, moi, je suis pour la liberté de chacune parce que le cheveu, ça relève de l'intime pour moi. Donc, chacune son histoire, mais c'est important que l'on comprenne que le cheveu crépus, c'est pas un cheveu qui est moche, c'est pas un cheveu qui est difficile à s'en occuper, c'est un cheveu comme un autre qu'on doit apprendre à aimer et à célébrer de la même manière que notre couleur de peau, nos origines. Voilà.
Merci infiniment à toutes les deux pour ces échanges passionnants. Daba Diokhane, fondatrice de la Dioka Academy, un centre de formation pour cheveux frisés, crépus et bouclés. Et Fatou Ndiaye, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, autrice notamment du blog Black Beauty Bag. Nous retiendrons que derrière la question du cheveu texturé, il y a quand même un véritable combat pour l'acceptation de soi, contre la discrimination et pour un changement durable des mentalités. À suivre la chronique Écoutez le monde de Monica Fantini, c'est juste après la chanson de Dina M qui nous vient de Madagascar, un artiste en lice pour le prix RFI Découverte 2025, une voix singulière, une musique qui mêle tradition et modernité. Le public a jusqu'au 16 février pour voter sur RFI Musique et soutenir son favori avec la grande annonce du lauréat ou de la lauréate le 18 février. On découvre Rakemba. C'est l'heure de rentrer dans l'univers sonore de Monica Fantini. Écoutez le monde, les sons pour le dire, fracas.
Écoutez le monde.
Hédade Aduna.
Écoute. Chomo, c'est d'ailleurs, tu en rends, Michel Abitur.
Monde.
Qui
qui sont les autres?
L'art de rire, la histoire.
Écoutez-le moi.
Dans ma maison sonore, la vie murmure, grouille et même elle fait grand bruit. Aujourd'hui, je vous invite à tendre l'oreille au son et au sens du mot « fracas » en deux langues, le français et l'espagnol, avec l'écrivain Kiko Herrero. Fracas, bruit violent et soudain.
Le fracas
d'un verre brisé, de la circulation, d'une déclaration.
Le fracas des vagues.
Les fracas des êtres humains, les fracas des vagues.
Sans aucun doute, ce fracas contre les rochers ou contre le sable de la plage. Et on sait aussi qu'elles se fracasseront pour l'éternité, en tout cas jusqu'à ce que la planète existe. Mais elles continuent à se fracasser, une fois, deux fois, violemment ou doucement. Même les vagues d'un lac qui se fracassent doucement sur quelques cailloux continuent à se fracasser. Ça n'existe pas, le verbe refracasser. Elle se fracasse et se refracasse. Mais il faudrait l'inventer pour les vagues. Les êtres humains se refracassent. Se fracassent et se refracassent jusqu'à la fin. Oui, un peu comme la mer, jusqu'à la fin de leur vie, c'est sûr.
El estruendo del tsunami en Fukushima, el estruendo de la primera bomba atómica sobre Hiroshima, el estruendo del encierro de los toros aplastando a varias personas durante las fiestas de San Fermín, el estruendo de una multitud durante las fiestas de la Paloma en Madrid.
¿Qué es que se fracasa en español? Le fracas, comme ça en général, c'est, je dirais que c'est un estruendo. Tout de suite, j'imagine une foule, quelque chose qui progresse et dont le son augmente au fur et à mesure par des cris et des bruits et des chocs et des pas et le retentissement d'armes, de cuillères, de casseroles, comme on fait maintenant dans les manifestations en Argentine ou en Espagne. Ça, c'est un bon exemple d'estruendo. C'est les concerts de casseroles dans les manifestations argentines. Forcément, il y a dans estruendo et dans fracas aussi, il y a la notion de subit, de tout d'un coup. Donne à la chose fracassée, je lui donne un côté presque vivant, comme si c'était une personne ou une entité. Il y a quelque chose de soudain ou d'inespéré.
Écoutez le monde.
Écoutez le monde de Monica Fantini, notre chercheuse de son, est à réécouter sur toutes les plateformes d'écoute et sur l'appli Pure Radio de RFI. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment à toute l'équipe, Juliette Bro, Romain Dubrac et Delphine Cachin. Merci à vous, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro de 8 milliards de voisins vendredi prochain. Place à l'agriculture, une affaire de femmes sur le continent africain. Une émission à l'occasion du Salon international de l'agriculture 2025. Et lundi, 8 milliards de voisins revient sur la charge financière de l'exil dans un reportage long format signé Charlie Dupio. Nous entendrons les voix de celles et ceux qui ont choisi la France. Merci, bonne suite des programmes sur RFI.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.